pour la partie discussion et débat de notre colloque international. Qui prend soin, qui a une pandémie dans une perspective transnationale. Je vais passer la parole à Heidi Gottfried, professeure de sociologie à l'Université de Wayne. Son dernier ouvrage, c'est un numéro spécial de Critical Sociology de 2018, intitulé « Care Work in Transition, Transnational Circuits of Gender, Migration and Care »,« Travail du care en transition, circuits transnationaux de genre, migration et care », en collaboration avec Jennifer Jie-Shum. Elle va donc faire la discussion des trois... Elle va commenter et faire une discussion des thèmes qui ont été traités par les trois papiers qui viennent d'être présentés. Je vais passer la parole à...
I'm hoping that the translators can hear me as well as you can, as well. You can hear that I'm losing my voice. This is the wonderful thing of attending a conference in person and talking from 7 a.m. in the morning until 11 o'clock at night. So I'm enjoying that, but I may lose my voice before I end my remarks. That may be the coda of these remarks. Secondly, I am very mindful we're talking about care. So I want to be caring of the audience, and I will be very quick because I know that we're all very tired. So a little both self-care and then caring for each other. So we have three very interesting papers that look at the economic structure of the care economy, looking at both at a structural level and the inequalities within occupations as well as across occupations. But we also, this paper, as I think Helena said at the end of this the papers, that we have new actors that are very important, that is civil society. So not only to look at structures and the segmentation of care labor markets, but also agency. So Louise's paper adds a dimension that's quite important, not only to the project, but to our analysis, bringing those two together. We heard this morning about crisis and the crisis of care, and COVID did not precipitate the crisis. It intensified and exacerbated the crisis of social reproduction, and I mean social reproduction in the U.S. Vocabulary, not Bourdieu. This is from the feminist literature. In the examination of the crisis, it directs our attention towards human precariousness, societal inequalities, as well as to resilience and resistance. So I think those are very important to keep together. It's not just vulnerabilities, as Louisa said. The papers taken together highlight the changing capitalist economy as care is becoming more commodified. Paid care, as we saw from the data, is a burgeoning, diverse, and fragmented sector. Neoliberalism is shifting priorities of states. We heard that in Anne's paper today in France, and we have other examples from other countries. Austerity policies, reducing public funding, and financialization of the sector are reorganizing and diversifying the delivery of paid care with differentiated working and employment conditions and rights, and creating new fault lines of inequality. We heard again in Anne's paper that even in the more regular, I'm from the United States, so we admire the European former social democracies, but we see that the transformations occurring across the world, but in different ways. So faced with ever-rising elder care costs, they've reduced public provision consisting of what Ledoux and her collaborators call a hidden welfare market in paid in-home care that coexists alongside formal labor markets. The papers make visible the spectrum of care, the inequalities between occupations, between different segments of the care labor market, but also inequalities between families. So we have inequalities of gender, of race, and class and migration status, which I think is also quite important to bring in. But you have growing inequalities between households and the access to care. And the paper that we heard yesterday by Simone Weissman and her collaborator showed, and Nadja also reinforced, that who can afford this care? So as the state, as it's becoming more commodified and marketized, it means there's a degradation of the quality, but also a change in the distribution of care. So keeping those things in mind. I wanted for background, because I do love tables, as I told my colleagues yesterday, so I couldn't resist having a few tables in even my comments. So I thought it would be quite useful to use the ILO data to show the way that I'm looking at domestic work and the variation across our countries, both in terms of the percentage of the total employment that domestic work accounts for, and how it's such an important sector for women, particularly in countries like Brazil and Colombia, and that it's also very racialized. We know also from the comparative literature that the distribution within the care sector is quite different. So you have a higher proportion of domestic workers, or the nucleus is bigger in the global south than it is in the global north. So you have a division in the type of care that's available and how care markets are organized. This is a ILO table that, I'm sorry, France was not available from the ILO, but this is the first wave of the pandemic, and it shows the decline in the number of domestic workers compared to non-domestic workers. And Colombia has this it's really just striking the kind of, we've heard about how the displacement of workers, but it's tremendous compared to the overall economy. So I think that's to keep in mind, and that we have to highlight these differences. And we know that the meaning of the loss of employment is quite different if you're in Colombia, or if you're in Brazil, or if you're in France, or if you're in the United States, or if you're in Quebec. Giving a shout out to my colleagues in Quebec. I wanted to also highlight the papers by Nadja and Ruth with regard to if we use the typology or the halo of care and look at just domestic work, we find that the indirect direct really is consequential for the intersectionality of who is performing different types of care work, even in the domestic sphere. So in this is the United States, you see that direct care, the reoccurring care, is much more more racialized white than cleaners, the indirect, non-reoccurring. So those categories, those dimensions, are consequential, and we know in terms of the wages and working conditions, they are different. So even within the halo, we have stark differences. Oops. So now you can dream. Now you have the, you can imagine what data might I might put up there. Imagine a table, please, with the axes that you can imagine. But I want to highlight the HALO, because it is, for those of us in the TAP project, it's a real innovation. It's a real new way of understanding and seeing the extensiveness of the care economy. So we may disagree on what the borders and boundaries are. Nonetheless, it is a, I think, an important, it makes it very visible how important this sector is to the overall economy. And this would be true regardless of the country. It may be the division within, in terms of the halos would be different, but I think this is a politically important sort of way to visualize, to show in fact that care matters, to revalue care. So the HALO is a heuristic that shows us both within and between variation and of inequalities. And the nucleus is quite important, and this is why I provided that data, because they are the highest rates of informality. We saw a variety of employment relations with different access to rights, less protected overall compared to these other sectors. So it's quite useful to do comparisons and to show the variation and to get back to the discussion we had this morning about how these different care markets are organized and segmented, which have real consequences in terms of, and I'm going to talk about this in a moment when I get to Louise's paper, and that is in terms of mobilization and politics. Ruth Milkman's paper further deconstructs the divisions within the nucleus. I guess that will be a new orbit that we talk about, or maybe it's a biological metaphor. Exposing stratification and inequalities among workers. She finds a complex mix of factors that shape the pay conditions of US domestic workers, including geographic location. So the fact that we have a very limited and meager neoliberal marketized welfare state, it means there is, creates great variability and variation and heterogeneity across our states. So some states have very good rights, or some municipalities have very good rights. So they, so New York City or Los Angeles versus Florida or Mississippi, there's a lot of variation in terms of policy, legislation. So with a minimal welfare state, both in terms of social spending, but also the rights, which are very minimal, it's at-will contracts overall, not just in this sector, but overall, and that it has a sort of boomerang effects. So it matters the type of welfare state, the type of institution. So mapping, conceptualizing, and mapping the care economy is consequential for determining gaps in protections, addressing conditions of employment and inequalities among workers in the domestic care sector, as well as others, and also have the possibility of revaluing care and the potentials for organizing and alliances. So Louisa's paper uses her understanding and a lot of, she's written a lot about domestic workers mobilizing, and so this builds on this, but what happened during the pandemic, so caring as an act of resistance. She talks about the particular mobilization were around the right to care and be cared for in times of crisis, and that this itself constitutes an act of resistance. The campaigns put forward a new vision of society that is both inclusive and based on love and solidarity. So I'm bringing in some of the feminist literature where Fraser says that the sphere of social reproduction embodies a distinctive normative and ontological grammar, such as the ideals of care, mutual responsibility, and solidarity. Feminist standpoint theory, in particular, Kathy Weeks, focuses on how caring labor and embracing its difference from industrial production as a potential source of alternative epistemologies and ontologies. So this insight that caring is a potential source of critique and politics informs economic and gender justice projects and new repertoires of resistance. I'm going to, if you're interested, I use Peter Evans' different landscapes of resistance from arborescent tree-like bureaucratic structures and rhizomic organizations. But I wanted to look at landscapes of organizational modalities in the US, and that there's hybridity, in part because of different legacies, national regulations, different policies and laws. And domestic workers in some states can unionize into traditional unions, but for the most part, they're not. So the National Domestic Workers Alliance that Ruth mentioned is an important organization with 250,000 members, which includes their friends and advocates. But you have a whole array of different types of organizations and different alliances, worker centers that organize around different kinds of spaces as well as around different kinds of rights. And I list some of the hybrid, the different modalities. And again, we have both Ruth and Eileen from the US team have written a lot about this. This is the National Domestic Workers Alliance because it has many of the same features as the domestic workers in the Latin America. I also just wanted to sort of flag that there are, because of these differences in national regulations, different sort of unionization capacities and histories, you have also different campaigns, and this is around union support of migrant care workers. So France and Netherlands, there are different kinds of supports in these different countries. And so this gets back to a comment from this morning, how do we map these differences? All right, so so let me pose some questions and comments for discussion. So I wanted to ask, are there repertoires of resistance that is a logic of collective action that you identified here intrinsic to caring across the full spectrum of care or distinctive to domestic work in particular? Or to put another way, using Fraser, does the sphere of social reproduction embody a distinctive normative and ontological grammar framing modes of resistance and modalities of solidarity? Or are new social imaginaries rooted in the continuities between reproductive work in the private sphere or the family and care work in waged workplace? Are there certain kinds of logics? Do these movements and practices prefigure more radical emancipatory alternatives and interpolate new political subjects? In addition, is the domestic sphere distinctive due to the nature of the interaction as well as these other aspects that Nadja raised? So on the one hand, and this is, I'm focusing on the domestic sphere and domestic work because it is the most vulnerable and it is the one in which you have labor markets and work that's less structured than the labor markets of professions, which have very clear job demarcations. You have career pathways, which you don't have in this kind of work. And so I think those pathways or the lack of pathways are quite important. So on the one hand, the domestic sphere has vestiges of domestic servitude that shape employment and power relations. On the other, employers and clients are potential allies toward the struggling for the right for care, the right to be cared for. But what the tension between capitalism and care makes it quite difficult. It makes them often, they have different interests. So families have an interest in keeping wages low and informality. We hear workers sometimes want to elude the same kinds of regulations because then they don't have to pay taxes. So there are perverse incentives that that capitalism sort of engenders in the system, which I think are incredibly important, that makes it different from other sectors. And I wanted to know what the implications of the care halo have on, in conceptualizing the care halo, on solidaristic practices and alliances across the five circles. What challenges do these boundaries pose? That is, the stratification among care workers. And if they are these segmented care labor markets, we have interests within the professions that differ from domestic workers and from other parts of the halo. What can transcend those boundaries? Is it these different logics? Ruth and Nadja, both they have slightly different approaches. So I'd like them to sort of talk to each other about their conceptualizations and how they match or don't match, are the different boundaries, and so on. One of the issues that I'd like to raise is kind of methodological and our units of analysis. By definition, we are teams. So I'm Team USA, an aspirational member of Team Canada, as well as Team Brazil. However, having the nation as our unit, right? So the rural, urban in Brazil is so important. Different parts of Colombia are quite different, even different cities within Colombia. So the scalar issues, but then it's the transnational scale that we haven't talked about at all. And you can't talk, I mean, the literature on care is about care chains. That means there's a dynamic between the relationship between countries and those asymmetries and the migration patterns that also Javier mentioned, both internal migration, which is very important in the global south. You have a lot of movement of people for various reasons, whether it's conflict or violence, or just that's where development is centered within the urban area. So this is where you can get jobs. So it's really important that we look at both the internal, but also transnational migration. We haven't heard a lot about migration, which is really, it's surprising being in France that we were not hearing about that. So I'd like to think about the multi-scalar that we have been gesturing toward, but maybe not realizing yet in a project. And this is something that we can't really necessarily do, but beginning to tease out why there are similarities, why there are differences, the convergences that were signaled by Nadja and by the comparison of the U.S. and Brazil, but also to explore what the differences are between our different countries. So thank you very much for your wonderful papers.
Oui, merci beaucoup pour toutes les interventions. Et j'ai une question pour Louisa, notamment donc, sur les campagnes des différentes organisations de travailleuses domestiques. Il m'a semblé entendre des thèmes récurrents. Et donc, il y a eu aussi des échanges, il y a eu des formes de coordination. Enfin, ça m'intéresse justement pour rebondir aussi sur ce que disait Heidi sur la dimension transnationale, hein, comment aussi les échanges se font entre les différents groupes nationaux de travailleurs et même au-delà, hein, effectivement, qu'est-ce qu'on voit comme, comme répertoire d'actions qui peuvent se développer d'un continent à l'autre. Et c'est vrai que tu posais la question des mouvements sociaux. Alors moi, je n'ai pas directement étudié ça, sauf par le biais d'associations locales. Mais il y a eu un certain nombre de travaux aussi qui ont été faits sur d'autres territoires. Je pense notamment à la banlieue de Marseille. Et on voyait aussi des dynamiques similaires, hein, où les syndicats ou même des groupements politisés se demandaient s'ils devaient réellement livrer des colis alimentaires ou seulement, entre guillemets, interpeller les pouvoirs publics. Mais face à l'absence de réaction des pouvoirs publics, à la lenteur des réactions, beaucoup ont aussi pris le parti de faire eux-mêmes ce travail de distribution des colis alimentaires ou aussi des colis hygiéniques, effectivement sur une plus courte durée, mais avec ces questionnements aussi toujours, hein, ces tensions entre action directe et politisation de leur action. Merci.
Bonjour, donc moi c'est Nathalie, Équipe Québec. Je voulais d'abord remercier tous les panélistes pour votre travail, vos articles sont extraordinairement intéressants. Vous nous avez donné un portrait très vif d'une grande partie de la population qui est normalement invisible. Donc, vous nous avez vraiment rendu visible qui sont ces personnes, où sont-elles. Et j'ai l'impression qu'à travers vos présentations, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on, en rendant visibles ces femmes-là, vous avez aussi rendu visibles pas nécessairement de façon explicite, mais des réseaux de solidarité informels qui sont fondamentaux à la pratique du care. Comme infirmière, vous le savez, je suis infirmière, mais pendant la pandémie, une des choses qu'on a pris entre nos propres mains, parce que le syndicat avait échoué à cause de décrets gouvernementaux. Donc, Javier en avait parlé ce matin sur l'autoritarisme qu'on a vu émerger de certains gouvernements pendant la pandémie. Donc, nous, le gouvernement avait interdit la libération syndicale des syndicalistes dans le milieu de la santé, des infirmières auxiliaires. Donc, on n'est pas resté passive face à cette attaque sur nos droits démocratiques. Donc, beaucoup de réseaux informels de solidarité se sont créés pour, par exemple, avoir accès à de l'équipement de protection. Donc, on n'a pas accepté de simplement aller travailler sans protection. Quand les appels au syndicat n'ont pas fonctionné, on a contacté des amis, des collègues, de la famille qui se sont occupés de nous, qui sont venus parfois nous amener des boîtes de masques en bicyclette, des pompiers qui venaient d'à côté pour nous amener de la nourriture. Donc ça a été vraiment central à notre santé mentale pendant la pandémie aussi. Mais beaucoup de ces réseaux sont un peu restés, pas nécessairement en contact direct, mais on les retrouve encore sur Facebook, sur les plateformes, les réseaux sociaux, etc. Et c'est aussi quelque chose qu'on a vu beaucoup avec les parents, surtout les mères, quand les écoles sont fermées, par exemple, des groupes de soutien sur les réseaux sociaux pour se donner des trucs, aussi se donner des raccourcis pour avoir accès à des subventions ou des aides financières, des trucs pour arriver à obtenir de l'argent ou des services qu'on n'aurait pas normalement eu accès, auxquels on n'aurait pas normalement eu accès. Donc, ça, à travers ce que vous révélez dans le portrait, il y a aussi ce fil conducteur-là que je pense qu'il est important de souligner, c'est que les travailleuses du care ne sont pas passives. Elles sont très actives dans l'organisation de leur travail, dans l'organisation de leur résistance. Ce n'est pas toujours de la résistance visible à travers des structures syndicales, parce que le syndicat, ça reste une structure. Donc, le syndicat a une hiérarchie, le syndicat a des relations de pouvoir, mais les réseaux informels, coopératifs, ont été vraiment centraux à développer la confiance de beaucoup de travailleuses du care à nous « empower », excusez mon anglais, mais nous autonomiser, je ne sais pas comment on… mais l'empowerment qu'on a pu atteindre à travers ça. Et ça, je pense que dans certains endroits, ça a, ça a joué un rôle important dans la vision qu'on a de nous-mêmes et la valeur qu'on accorde nous-mêmes à notre travail également. Et j'espère qu'on va continuer dans cette veine, mais ça, le futur nous le dira.
Je vais continuer un peu dans la même veine de ce qui a été dit par Aurélie puis Nathalie, Geneviève McCready au Québec-Canada. Il y a une étude qui avait été faite par Sandrine Labelle chez nous, qui est une étudiante en histoire, sur les réseaux informels, justement, que les femmes avaient mis en place, je crois que c'était dans les années, peut-être entre 40 et 60, pour soutenir les grévistes hommes qui travaillaient dans les mines d'amiante. Et pour... parce que les grévistes étaient aussi sans salaire pendant un bon bout de temps, donc les familles n'avaient pas de revenus. Et donc, les femmes se sont mobilisées pour faire de l'échange de nourriture, vêtements, pour permettre de continuer la grève. Puis, elle a mis en lumière le travail de ces femmes-là dans l'obtention de droits pour des mineurs qui travaillaient dans les mines, là. Donc, le travail de ces femmes-là était crucial dans le maintien de la grève puis l'obtention de ces droits-là. Et, tu sais, puis c'est quelque chose qu'on n'avait pas conscience du tout du travail de ces femmes-là. Puis ça me fait poser la question un petit peu sur où sont les hommes? Où sont les hommes pour soutenir les femmes dans ces réseaux-là informels? Fait que c'est ça.
Alors, merci beaucoup pour le panel. C'était extraordinaire en hein, plusieurs dimensions. J'ai une première question à Ruth. I'll do it in English. I think it's going to be easier if you hear from me. So, you mentioned a domestic workers' bill of rights in the state of New York. And I was curious to know if that applies to all the three categories that you mentioned, and if there's a difference on enforceability of this law according to each of the three sectors. Une deuxième question à Louise par rapport à la formule du droit au care. Est-ce que ça apparaît comme ça dans les manifestations des campagnes publiques et aussi des documents produits par les associations? Parce que ça m'intéresse beaucoup à ce moment comprendre comment cette idée rentre dans l'univers aussi, au même temps du care et juridique et quelles sont les limites et les formulations qui sont en train de se développer autour de cette idée. Merci beaucoup.
Okay, I'm going to go backwards, starting with, I don't know your name, but yeah. Pedro, thank you. A Bill of Rights. It does apply to all the groups I discussed. Anyone who works in a home, and it's very beautiful law. And they fought very, very hard for it. It's not, New York was first, but a number of places in the US now have such laws. The real problem is not making people aware of it, and I think I mentioned that, and also enforcement. So, I mean, that it's very little. No, this is an issue with a lot of legislation. I'll just give one example very quickly. I used to study paid family leave legislation, which began in California and has spread a little bit to other blue parts of the US. And Eileen Applebaum and I did some research on this in California. We did surveys and we found that although this applies to the entire private sector labor market, only about half of California adults knew it existed. So this much, and the more vulnerable workers knew, it was an even higher number, like immigrants or young workers, whatever. So we don't have data like this for the Bill of Rights, but I would be willing to bet a lot of money that the awareness is much, much lower. I mean, almost no one has heard of it, frankly, except for people on the left and, you know, advocates themselves. Workers don't know about it, nor do employers. So that's the real problem. I mean, it's still symbolically, you know, symbolic politics matter too, but it's not really. And then enforcing it is extremely difficult for all the obvious reasons. I wanted to also respond to the questions about women's auxiliaries, is what we call them in the US. Not a new phenomenon. This goes back at least a century. I'm an amateur labor historian besides being a sociology person. Thank you, Eileen. But anyway, all right. Anyway, the point is, those auxiliaries are, I think the reason why you don't see the male counterpart, it's kind of an extension of domestic responsibility into the public sphere, right? And it ends as soon as the conflict ends. It's not, so it, you know, it is supportive of the male strikers, but it's predicated on this gender division of labor that precedes that. So I think that's why you don't see the, not, maybe we will see it someday, but I haven't. And then one last comment on the social network question. Social, I mean, I've also done some research on immigrant organizing in other sectors, and social networks are fundamental for that, for a lot of kinds of organizing, and they only become visible when the organizing succeeds, right? But they're a crucial resource. And for foreign-born workers, at least in the U.S., they're much stronger, those networks, than for U.S.-born, for lots of different reasons. People, you know, when you immigrate to a new country, you usually connect with people from your country, often relatives, but maybe not, maybe just from the same place, right? And so you depend on that for housing, for jobs, for everything. So, and also, anyway, so it becomes important in organizing too. And there's a lot of trust there that is hugely important. And so I think that's something we should be paying more attention to. I think those are the only questions for me. Who wants to go next? Nadja, since the microphone's here.
Okay. Je serai peu obédient et ferai un commentaire sur des questions qui sont été référées à moi-même, mais quelques commentaires sur d'autres commentaires très très intéressants qui ont arrivé. Tout d'abord, grand merci à Heidi pour son excellente réflexion. En fait, elle a pris nos papiers comme point de départ et a fait une réflexion totalement nouvelle, riche et interconnectant nos propres idées. Je pensais quelque chose à propos de la réflexion de Heidi. Le premier point, la question de l'agence, de l'action, pas seulement l'exculture, mais c'est important d'observer l'agence, les agents, l'agence. Et je pensais que cette agence a différents niveaux. Pas seulement la capacité d'action des travailleuses du Caire, qui c'est très important, qui c'est très vivante dans le papier de Louise, non? Très bien documenté. Mais je pense qu'il y a une chose qui a appris dans le commentaire, et les communautés, elles sont aussi centrales pour penser cette agence, non? Et si on connecte avec l'autre idée, non, d'une ontologie, une grammaire, hein, la grammaire varie. Non, si on varie les sources où s'ancre cette agence, non, c'est différentes formes d'agence. Par exemple, je me rappelle dans les cas brésiliens, pendant la pandémie, on a beaucoup entendu une consigne qui c'est il ne reste que à nous pour nous-mêmes. D'une façon, ça permet de suivre l'idée des absences de l'État. Hein, pour nous protéger, nous n'avons que nous-mêmes. Hein, somos nós com nós. Hein, et la flexion des grammaires était totalement erronée dans le portugais, mais politiquement très fort. Hein, et nós com nós, c'est pire, la grammaire. Mais c'est génial parce que ça soutient tout le mouvement. Ce sont les mouvements des colis alimentaires, ce sont les mouvements, et même le mouvement très, très ordinaire de solidarité se politise. Non? Par exemple, on a dans notre équipe Brésil un doctorante qui analyse un mouvement de répartition des colis alimentaires à l'intérieur de São Paulo, dans une petite municipalité où le pauvre de la périphérie s'unisse aux pauvres des zones rurales du mouvement du travailleur sans terre, hein, pour organiser le flux de la production rurale des travailleurs sans terre et les besoins de nourriture des pauvres de la périphérie. Le lien, c'est une consigne politique, une plateforme politique qui s'était implantée dans tous les pays à ce moment. Hein. Donc, c'est intéressant que les colis alimentaires étaient liés à l'action politique, expressement liés à l'action politique. Hein. Même autour de décisions très simples comme comment on fait la distribution des colis? Est-ce qu'on peut mettre une photo, une consigne avec le RIS, par exemple, et faire circuler le RIS et la consigne politique? Hein. C'est très intéressant. Ça, tout ça pour dire qu'il y a des différents niveaux que dans les projets, on doit être attentif pour capturer la question de l'agence, qui, à mon avis, est centrale, pris dans les papiers de Louise. C'est central pour ce projet, soit du point de vue des travailleuses, soit du point de vue des communautés, mais soit aussi du point de vue de l'action de l'État, et de l'État sans l'élargie, non? L'État à travers ses institutions et ses personnages. Par exemple, je pense, dans le cas du Brésil, le système unique et universalisé de santé, non? Et toute la nouvelle structure des actions basiques, comme on dit, non? À niveau micro, qui lie, non, les institutions publiques et les gens qui ont besoin d'attention, de soins. Non. Mais il y a en bas toute une discussion de nature idéologique et politique autour de ça. Hein. Et c'est l'État. Mais ce n'est pas l'État hégémonique, c'est l'État à travers de ses fonctionnaires, non, et de la dispute idéologique à l'intérieur des institutions de l'État. Non. C'est très intéressant ça, et même dans un pays comme le nôtre, où l'État-providence n'a jamais été comme on aspirait, hein, on a des initiatives importantes. Donc je pense que les plusieurs prismes, je prends l'idée d'Aurélie que j'ai beaucoup aimé dès le premier commentaire d'hier, non? Il y a beaucoup de prismes, on doit être attentif à la porte d'entrée des choses. C'est un point, pardon, parce que j'ai beaucoup parlé. Hein. La question de la... There is embodied a distinct grammar, a distinct grammar of resistance. Une grammaire spécifique pour la résistance. Non? Je pense que peut-être, de nouveau, on devait le faire au pluriel. Pour le projet, quelles sont les différentes grammaires qui apparaissent, non? Ce n'est pas la grammaire du Caire, non? Mais on a plusieurs grammaires parce qu'on a une tension entre acteurs. C'est très intéressant. Et à ce moment, dans notre recherche de terrain avec les afro-descendants, la petite communauté rurale intérieure de Bahia, Brésil, à Quilombos, non? Il s'appelle Quilombolas. La façon de parler de cuidado, care, c'est absolument propre. Non? Même la première fois qu'ils ont parlé le mot cuidado dans un entretien avec moi, était pour faire référence à les actions de solidarité entre femmes, pour les femmes qui ont été objet de la violence de ses compagnes, de ses maris, je ne sais pas quoi. Hein. C'est très intéressant, cette différence aussi des grammaires que le domaine du care peut embrasser. Hein. Un troisième point très intéressant aussi de ton commentaire, c'est la question de... mes yeux faisaient comme ça, non? Quand tu parlais des implications de la loi du Caire pour la possibilité d'alliance entre les différents travailleurs et tensions de les cercles là-dedans. Non? Et ça nous obligera à penser la question des professions et des frontières. On a parlé un peu de ça hier, non? Mais qu'est-ce que c'est le travail qui est reconnu socialement et qui se reconnaît elle-même en tant qu'une profession? Donc, j'ai le pouvoir de définir les barrières, les frontières, qui a les droits et qui n'a pas les droits de faire ça, non? Et quelles sont les occupations qui n'ont pas ces pouvoirs, non? Je pense que ça fait une énorme différence, non? Et la possibilité d'alliance et la tension, je pense que c'est beaucoup, beaucoup lié à cet monopole que certains groupes peuvent avoir sur le marché du travail, déterminant son marché du travail. Bon, je pense que c'était la forme de réagir à ton commentaire. De nouveau, merci. Je ne résiste pas, Geneviève, tu demandais pourquoi les hommes, où étaient les hommes. Ça, c'est à ce moment ma première question de terrain dans le Quilombo. Qui font les hommes? Où sont-ils? Parce que les femmes sont partout, non? Elles vont pour les huîtres, elles font le soin des enfants, elles font de l'articulation de femmes noires, des mouvements entre quilombos. Elles sont partout, non? Et elles font de la production de maïs, de l'huile, de palme, et les hommes. Il y a les hommes, mais je fais les entretiens et les hommes n'apparaissent pas, non? Donc, je rentre au terrain en juin. Mon principal but, c'est rencontrer les hommes, parler avec les hommes. Parce que, je ne sais pas, non, c'est très intéressant. C'est absolument inégal. C'est un monde beaucoup, d'un côté, beaucoup plus communautaire, d'autre côté, très hiérarchisé, apparemment, beaucoup plus hiérarchisé que le nôtre. Bon. Je pense que c'est ça. Il y a un travail de finalisation des degrés de maîtrise au Brésil qui a obtenu le prix de l'association Marielle Franco et a été publié comme un livre il y a peu de temps qui est très intéressant où la notion de cuidado. Et l'analyse des communautés afrodescendantes, rurales, au sud du Brésil, la notion de cuidado est employée pour faire référence au travail domestique non payé, qui est honorable, vis-à-vis la notion de servir, servir, hein, qui est employée pour faire référence au même travail s'il était réalisé en tant que travail payé. Donc, c'est très intéressant de voir comme jouer, non? Ces manipulations. Merci et pardon.
Merci beaucoup, Nadia. Je passe la parole à Louisa.
Merci. Merci également à Nadia Hout pour la présentation. Merci beaucoup, Heidi, pour les commentaires. Et merci pour vos questions. Je vais répondre un peu dans le désordre. Où sont les hommes? Un peu comme Nadia, je me pose la question régulièrement. Surtout, bon, on parle d'un secteur extrêmement féminisé, c'est plus de 90% des femmes. Souvent, il n'y a pas de mari, hein, c'est des femmes chefs de foyer, donc elles sont séparées. Elles ont des enfants, des petits-enfants, mais je ne sais pas où sont les pères de ces enfants. Et la relation à l'employeur, il y a d'autres travaux sur ça, mais en général, ça se fait avec la femme également. Donc, c'est l'employeuse avec l'employé. L'homme est rarement présent dans cet univers. C'est une vraie question. C'est des pères ou des grands-pères absents. Quand elles ont des enfants hommes, en général, c'est pas eux qui les aident non plus, c'est pas eux qui s'occupent d'elles, c'est leurs filles qui s'occupent d'elles. Dans les communautés les plus précarisées, il y a donc la question de la violence, du trafic, etc., où leurs fils peuvent se retrouver dans des situations... aussi compliqué, donc les hommes sont pas là, quoi. Donc, mais bon, c'est peut-être une défaillance, on l'a pas vu, je sais pas, faut qu'on pose mieux la question, mais je ne sais pas où sont les hommes, voilà, dans cet univers. Sur la traduction juridique, légale d'un droit au Caire, bah, évidemment, elle ne le formule pas comme ça, hein, c'est moi qui le mets comme ça, mais elle parle du droit, ils disent, voilà, nous, on s'occupe de vous tout le temps. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit aussi qu'on s'occupe de nous? Et cuid educate you, cuid, take care of those who care for you. C'est dans toute l'Amérique latine, c'était le slogan des groupes affiliés à la Fédération internationale. C'est quand même, donc je ne sais pas si c'est une traduction juridique, mais c'est quand même le cri du désespoir, de dire c'est, on risque notre vie littéralement si on vient faire le ménage chez vous ou s'occuper de vos personnes âgées, isolées, etc. On risque notre vie, on prend le transport, on n'a pas de masque, on n'a rien. Sans nous, bah, ouais, y a une faille, une absence de care. Ben nous aussi, on a besoin d'être protégés. Et donc je ne sais pas s'il y aurait une traduction légale pour ça, mais du coup, comme tu me posais la question, j'ai essayé de réfléchir là où elles ont mené des actions. Donc, au tout début, c'était la question de la quarantaine, qui n'a jamais été traduite en droit, mais il y a eu une orientation du ministère public du Travail pour dire que le travail domestique au Brésil, en tout cas, ne peut pas être considéré essentiel dans n'importe quelle circonstance, même si bon, on sait qu'il n'y a pas de fiscalisation de la maison. Mais c'était l'orientation, c'est-à-dire que ça ne peut pas être considéré essentiel dans n'importe quelle circonstance. Bon, malgré ça, on a des cas dramatiques qu'on a vu au Brésil, de l'enfant de 5 ans qui s'est retrouvé aller au travail avec sa mère et l'employeuse l'a mise dans l'ascenseur et bon, là, il s'est retrouvé au dernier étage, il est mort. Enfin, il y a énormément de cas terribles, mais bon, il y avait une idée quand même à un moment donné, il y a une circulaire voilà, qui dit ça ne peut pas être essentiel dans tous les cas, mais c'était un combat énorme autour de la quarantaine. Il y a eu la question du vaccin. Donc dans quasiment tous les pays, encore une fois, ceux où je regarde où les membres de la Fédération internationale ils disaient bah, si on est tellement essentiel que ça, si on est si essentiel que ça, on devrait avoir la priorité dans la vaccination. Que je sache, c'est arrivé nulle part. Mais c'était un discours très fort de dire bah, on devrait être considéré comme groupe prioritaire. Si on fait partie des travailleurs essentiels, au même titre que la santé, etc., bah, on doit être prioritaire au vaccin. Et il y a la question de l'accès aux aides publiques, qui, encore une fois, était très compliquée dans tous les pays où le secteur informel est important, comme au Brésil, en Colombie, au Mexique, etc. Il y a eu les aides émergentielles. Je ne sais pas si on dit émergentielles, les aides d'urgence. les aides d'urgence, donc on a beaucoup parlé du Brésil, en Colombie aussi, en Argentine, il y a eu des programmes de transfert d'argent. Mais souvent, en fait, c'était pas si accessible que ça parce qu'elles savent pas lire, parce qu'elles ont pas internet, parce qu'elles comprennent pas le formulaire, parce qu'il y a des cas où on demande de prouver que la personne a perdu son emploi. Or, si t'es informel, bah, comment tu prouves que t'as perdu ton emploi? Donc, les dispositifs étaient pas toujours accessibles pour cette population. Et après, bah, je vais regrouper un peu les questions, les commentaires de Aurélie, Heidi, Nathalie, bon, sur les formes de résistance. Qu'est-ce que la résistance? Qu'est-ce que la révolution? Bon, on peut y passer la journée. Je dirais, il y a une forme de similarité transnationale, en tout cas dans les groupes qui appartiennent à des fédérations, des confédérations internationales. Ça a été très homogène, le discours et les formes d'action qui étaient possibles et qui étaient nécessaires. Donc, dans tous les pays d'Amérique latine que j'ai regardé, il y a eu des distributions de paniers à repas et des revendications autour de la loi. Je sais que c'est arrivé aussi en Europe. Le Moyen-Orient, c'est encore plus compliqué parce que leur système est, je pense, un des pires au monde en termes d'esclavage moderne. Voilà. Mais par exemple, il y a beaucoup de pays où les travailleuses immigrées se sont retrouvées coincées, où elles ne pouvaient pas rentrer dans leur pays d'origine. Et à la fois, elles étaient dans un pays d'accueil où parfois pas dans une situation tout à fait légale, et du coup, elles se sont retrouvées complètement sans rien. Donc, on n'a pas encore... j'ai pas encore étudié à fond le Team UK, mais les travailleuses avec qui on a discuté, elles nous ont quand même pas mal parlé de ça. Et elles nous ont beaucoup parlé de la question... en fait, une des actions principales qu'elles faisaient avant la pandémie, c'est d'aller sauver les travailleuses trafiquées chez les employeurs. Elles ont dit, pendant un an, on n'a pas pu faire de rescue. On n'a pas pu aller les sauver parce que, ben, on était coincés en lockdown. Et donc, on n'a pas pu aller chercher les femmes qui étaient dans cette situation chez leurs employeurs. Par contre, ce que j'ai vu aussi sur des pays où il y a beaucoup de travailleuses immigrées, c'est qu'il y a eu des formes de solidarité, donc un peu ce que d'autres interventions disaient, plus, entre guillemets, plus petites, plus informelles, donc d'aider une voisine, etc., aider quelqu'un à aller chez le médecin, ou, voilà. Et il y a eu, ça c'est morbide, mais des caisses de solidarité pour les enterrements. Donc pour pouvoir renvoyer les personnes pour être enterrées chez elles. Voilà. Je ne sais pas comment parler de ça de manière sans que ce soit trop tragique. Et sur, alors, y a-t-il un sujet spécifique du CARE, un sujet révolutionnaire du CARE? C'est une question magnifique. Je pense qu'on pourrait en débattre beaucoup plus longuement. Et c'est évidemment une question dont on a encore 2 ans pour rechercher. Mais je dirais qu'il y a... Il y a plusieurs choses reliées à ta question. Non, mais j'ai un début de. Mais disons, les travailleuses domestiques, c'est un standpoint. C'est pas tout le CARE. Donc il y a la question de travail à domicile. Je pense que ça crée évidemment un sujet particulier. Le fait que le lieu de travail ce soit la maison de quelqu'un d'autre, ça crée forcément une spécificité qui est pas forcément la même qu'une infirmière ou que quelqu'un qui travaille en EHPAD. Mais je pense qu'il y a deux choses. Il y a des formes non standards, qu'on appelle non standards de mobilisation, qui étaient là avant, qui continuent, et qui dans ce moment, bon, qui utilisent le CARE, un moment où on a besoin du CARE, où on parle de CARE, et donc ils disent, bah, nous aussi, on a le droit à ce CARE, mais ça devient aussi une fenêtre d'opportunité pour montrer encore une fois l'essentialité, la nécessité de leur travail. Donc c'est à la fois c'est pas nouveau et à la fois la pandémie permet de rendre ça plus visible. Mais il y a autre chose au-delà du CARE comme répertoire d'action, disons plus formel, que je pense qui s'applique à n'importe qui, à nous tous, c'est la capacité de continuer à CARE dans le sens de continuer à avoir de l'empathie, de continuer à s'inquiéter pour les autres, qui, je pense, pendant la pandémie, a été vachement mise à mal, en fait. Et d'avoir la capacité de continuer à s'inquiéter des autres et à avoir des actes de solidarité, que ce soit avec nos proches ou avec notre catégorie professionnelle ou peu importe, moi, je trouve que c'est révolutionnaire. Surtout dans des contextes comme aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil, on avait quand même des gouvernements... Bon, le but, apparemment, était plutôt de nous tuer que de nous protéger. Je pense que mes collègues brésiliens seraient d'accord avec moi. Il y a un moment donné, on s'est dit, bon, on va tous y passer, là, c'est pas possible. Il veut nous tuer, il est contre le vaccin, il est contre les mesures de protection. De garder notre humanité, notre capacité à care, je pense que c'est une forme de résistance importante. Voilà.
C'était Naila Pinheiro. C'est l'éditeur de la revue Mandragora. Elle a dit, je vous pose une question. Est-ce que le soutien aux réfugiés et aux immigrés illégaux ou non pourrait-il être considéré comme travail de CARE?
Quelqu'un peut répondre à cette question de Naira Pinheiro? Sur les réfugiés, si c'est du travail des réfugiés, c'est un travail du CARE.
Quelqu'un d'autre veut se lancer, non? Okay. Je dirais que oui. Je dirais que ça rejoint un peu ce que je disais avant, c'est garder. À la fois, c'est une question, c'est leur permettre de survivre. Donc, c'est prendre soin de ces personnes. Et c'est garder une capacité d'être humain et solidaire dans un contexte où, je ne sais pas, peut-être face à la violence ou à l'imminence de la mort, on pourrait devenir plus, je ne sais pas, plus, quel est le mot, plus agressif, ou arrêter de s'importer avec les autres. Donc je pense que n'importe quelle action de solidarité, n'importe quel groupe envers lequel on peut exprimer une forme de solidarité, moi je le mettrais dans ce grand répertoire de CARE comme forme de résistance. Et évidemment, la situation des personnes sans papier, par plein d'aspects, c'est encore pire que la majorité de la population. C'est des personnes qui vont pas, par exemple, qui vont pas aller à l'hôpital ou chez le médecin parce qu'elles ont peur qu'on les contrôle, etc. Donc ça, on en a un peu entendu aussi au Royaume-Uni. Ils disaient, si elles tombaient malades, si elles avaient le Covid, tout simplement, elles n'allaient pas se faire soigner parce qu'elles avaient peur qu'on les déporte.
Donc moi, je dirais que oui, pour répondre rapidement.
Je suis d'accord avec toi, avec ta réponse. Alors, je ne sais pas si on peut faire un autre groupe de questions de la salle, s'il n'y a pas de questions sur Zoom ou sur...
Et bon, je ne suis pas forte avec les micros et je vais peut-être faire du franglish, donc désolée. Et donc Saba, Team UK, numéro 2. Et c'est plus une réflexion de, je pense, hier un peu, qui était un peu le groupe interne, et aujourd'hui, et j'aimerais ramener peut-être la discussion sur peut-être bouger de transnational pour aller vers le global. Et je ne sais pas si, vous êtes au courant, mais... Et il y a des régulations internationales sanitaires qui existent et qui sont hyper biomédicales. Donc, toute la réponse COVID, OMS, elle est dirigée fondamentalement par les laboratoires, les capacités de labo, les capacités diagnostiques, les capacités du soin à l'hôpital dans les healthcare, non ? Et donc, et j'avais été invitée à un truc où on parlait sur le futur. Il y a en ce moment des négociations internationales de... Global Pandemic Treaty. Et moi, mon point, c'était qu'il faudrait move du biomédical pour ramener les déterminants sociaux de la santé sur la table, parce que fondamentalement, au-delà du soin de santé, je ne sais pas comment dire, et fondamentalement, et c'est exactement ce qui s'est dit aujourd'hui pour probablement l'un des groupes les plus vulnérables et de la société, et je pense que ça reflète juste le pire déterminant sociaux de la santé, et c'est comment nous, en tant que chercheurs, dans les deux, Louisa vient de souligner, il nous reste 2 ans, et je pense que potentiellement, on a une contribution à apporter, nous, et en tant que chercheurs, chercheuses, surtout probablement chercheuses, activistes, to a certain extent, et donc quel est notre rôle, et peut-être quel est le rôle de ce projet, de ce colloque, et des gens qui sont ici, et comment nous, qui avons accès à des instances de pouvoir et de production de knowledge, et comment nous, dans les universités, on ramène ce sujet du care, et comment nous, on peut le placer et ouvrir la porte aux domestic workers, aux care workers, leur ouvrir la porte des universités, mais aussi leur ouvrir les espaces de, où on peut influencer les policies. Et donc, et c'était quoi mon point ? Et donc, il y avait un point de Louisa sur relier crise, désastre et solidarité. Et je pense qu'il y a un point qui est sorti beaucoup de la présentation de Louisa, parce que ça parlait de résistance, et d'utiliser la pandémie comme une opportunité au milieu du désastre. Il y a quand même eu ces pockets d'optimisme et de gagner des droits. Et c'est peut-être sensibiliser peut-être les organisations, parce que l'épidémiologiste vous dira... on va avoir d'autres outbreaks. C'est juste la première. Mais clairement, on va en voir plus. Donc, comment sensibiliser les organisations syndicales ou de travailleuses pour profiter de la prochaine pandémie, parce qu'elles vont s'en prendre plein la figure, dans la prochaine aussi. Et comment nous, assis dans nos systèmes privilégiés, on peut leur ouvrir la porte pour qu'elles viennent s'asseoir à la table et... quand ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas toujours possible, comment nous, on peut amplifier leur voix. Et c'est un peu l'approche qu'on a prise dans l'axe de la survey transnationale, et en essayant d'incorporer les voix des travailleuses, mais garder peut-être un peu la vision d'être actif et appliquer nos résultats sur, pour ouvrir la porte justement à ces gens qui sont en bas de la pyramide. Hein. Enfin, malheureusement, hein, tant qu'il y a une pyramide... C'était juste une réflexion et du coup, je me demandais comment nous, on peut utiliser cette plateforme.
Merci, Saba. Je crois que dans toutes les équipes nationales, cette préoccupation existe, cette préoccupation de lier la théorie à la pratique. Et je pense que, par exemple, au Brésil, les groupes interministériels sur les CARE qui s'est constitué, et là, une forte présence des personnes qui sont liées à notre projet transnational. Et je crois que même en France, nous avons eu la possibilité d'accès à beaucoup de personnes interviewées, à des aides à domicile interviewées, par exemple, qui étaient d'accord de se prêter à ce travail en sachant que ça pourrait être utile à leur lutte de reconnaissance de leur force invisible, de leur position de lutte syndicale, etc., parce que ce sont des personnes qui sont soit liées à un syndicat, soit qui luttent dans un collectif, qui s'organisent sous une forme de collectif. Et je crois que c'est cette préoccupation d'être utile, disons, à une lutte collective, à des résistances, etc., dans la société civile, et quelque chose qui est au centre de nos préoccupations, de la préoccupation de chacune d'entre nous. Et bon, je pense que nous pouvons donner la parole aux autres personnes ici présentes pour dire comment et de quelle manière dans chaque pays cette idée et cette préoccupation est mise en œuvre. Mais bon, hier, par exemple, dans la réunion fermée, je pense que les chercheuses du Canada, par exemple, ont beaucoup manifesté cette préoccupation. Je ne sais pas qui est-ce qui veut parler de là. Un pâle.
Hi. I have a comment. And Natalie helped me to translate. Thank you. In Colombia, las actividades económicas están organizadas por sectores. Y nosotros hablamos de un sector de cuidado, pero como actividad económica, por lo menos en Colombia, no existe.
Donc, en Colombie, l'économie est organisée par secteur. Ce serait plus facile pour moi de faire de la traduction simultanée.
Dado que no existe un sector de cuidado, sino un conjunto de actividades en los distintos sectores en los que se organiza el cuidado, que en América Latina hemos acogido la categoría organización social del cuidado, lo que hace salud, lo que hace la asistencia de personas mayores o con discapacidad. ¿Es ok?
Il n'y a pas de secteur unique chargé du care, sinon une organisation sociale du care dans plusieurs secteurs. Donc, dans le fond, ce qui passe, c'est que les secteurs économiques sont séparés et à l'intérieur de chaque secteur, il y a une organisation qui s'occupe du care. Il n'y a pas un état de bien-être ou un état du care. Nous hablons du secteur du care. Mais réellement, ce n'est pas un seul secteur. En Colombie, à tout le moins. Sinon, c'est un regroupement de plusieurs secteurs dans lesquels on fait du care. Et donc, je me demande si on aurait besoin, à l'intérieur de ce glossaire, inclure qu'est-ce qu'on veut dire par secteur du care. Qui est inclus dans le secteur du care? Première chose. Deuxièmement, je réfléchis à notre travail collectif. Nous avons planté en termes de que fait la personne qui prend soin. Il fait des soins des domestiques, du travail domestique, du travail de santé à la maison, home care, je vais parler anglais. Mais je pense que ce serait bien de caractériser mieux qui sont les personnes qui donnent du care en termes de ethnie, race, âge aussi? S'ils sont dans une zone rurale ou urbaine, dans quel territoire ces personnes vivent? C'est-à-dire, pas seulement en termes de ce que les personnes font, seulement, mais aussi de qui ces personnes sont. Par exemple, si une personne plus âgée s'occupe d'une autre personne âgée, ou qu'une personne plus jeune, un enfant, s'occupe d'une personne avec un handicap ou malade. Parce que les effets sur leur vie, la vie des personnes qui donnent le care, vont être très différentes selon qui elles sont et ce qu'elles font. Troisième et dernier commentaire. Je crois que les questions comme « Où sont les hommes dans le care? » En mon opinion, c'est pas seulement du care que les femmes effectuent principalement. C'est féminin, mais c'est aussi féminisé. C'est-à-dire, les hommes peuvent le faire. Mais c'est dévalué, comme si c'est une job de femme, un emploi de femme. Et voilà. Pour nada.
Bon, merci pour toutes les présentations. J'aimais beaucoup. Et je pensais laisser cette question demain, mais je vais profiter de l'opportunité parce que c'est sur le même sujet. C'est un type de spoiler de notre discussion de demain matin, mais. Je pensais, parce que à partir de cette discussion, de la traduction de mots care et soin, au-delà de la question que Amparo a proposée, je crois que nous devons faire de Nadia une ligne de recherche ou une personne qui va montrer, qui va investiguer quelle la société bien comprendre comme care, non? Comme cuidado, comme soin. Je vais utiliser le mot care, non? Parce que dans le discours politique, qui, au moins au Brésil, ce moment-là, il y a une grande utilisation de la mot care, même pour notre président de la République, non? En tout le discours de Lula, il y a la mot care, non? Et quel care qu'il parle, non? Et c'est la même chose de le travail de Pedro de Regina dans le champ des droits, non? Et aussi une curiosité, je ne sais pas comme c'est dans les autres pays, mais la publicité. Non? Je ne sais pas si vous observez qu'il y a plusieurs des entreprises qui commence à prendre le mot care, non? Au Brésil ou en portugais, cuidado, dans la publicité. Non? Donc, je crois que la société, c'est la polysémique. Non? Et nous devons, dans un premier pas, de bien comprendre qu'est-ce que la société bien comprend comme care. c'est un secteur de l'économie. Et quand nous parlons de et quand on parle de la, ça va? Ça va. Et quand on parle quand on parle de l'économie économie de care, non, elle elle provoque une surprise. Ah, l'économie de care, ah, qu'est-ce que c'est que notre champ de tout est un peu bon. C'est seulement cette réflexion pour nous, non? Parce que nous, et même les personnes, j'ai pensé ça, Nadia, et les personnes qui visitent notre website, non? Que les gens parlent, bon, oh, c'est très intéressant, mais c'est, et chacun parle d'une chose différente. Même mes étudiants, ils parlent de choses très différentes. Ils comprennent le care comme les choses très différentes. Non, c'est seulement cette réflexion. Merci.
Il y a Eileen Boris qui veut parler ici devant.
Well, these were very stimulating papers. Everything's been wonderful today. And I want to, as not a spoiler alert, but a bit of a downer. And I'm thinking of the political economy of the United States. And I'm thinking how during the pandemic we had child supports and almost universal health care given to people. And once the people decided that the pandemic was over, or at least the emergency was over, clawing back. And it reminds me of what wasn't enacted in our country, which were components of the care economy to make them permanent. The so-called Build Back Better bill. We got the physical infrastructure, but not the so-called care infrastructure or the human infrastructure. And who was pushing that? A coalition of advocates actually led by some of the leaders of the domestic worker movement. And this reminds us that we're also talking about power. And how do we move from our research to the policy to changing the political economy? That's a lot to ask for us to do, even with our allies. So, but it's something worth thinking about.
Thank you, Eileen Boris. I don't know if someone, je ne sais pas si quelqu'un de la table veut réagir aux commentaires, parce que c'était des commentaires divers qui ont été faits, ou si on passe la parole déjà directement à Nadia pour la conclusion. Il y a Louisa qui veut parler.
Merci beaucoup pour tous les commentaires et les questions. Ça fait émerger plein de nouvelles choses. Mais juste pour revenir un peu sur... Il y a plusieurs questions là, qui ont été amenées un peu ensemble. La question de la visibilité, de la prise en compte de ces voix-là, de ces voix marginalisées, subalternes, peu importe, voilà, je ne sais pas quel est le meilleur concept, mais je pense que c'est important pour plusieurs raisons. Il y a d'autres autrices, penseuses féministes qui l'ont dit. Anne Félix, par exemple, elle a beaucoup parlé de pourquoi il faudrait des femmes en politique. Elle a plusieurs raisons. Mais une des raisons, évidemment, c'est une question morale, une question de justice, de ne pas laisser les gens mourir, de ne pas laisser les gens tomber malades. Mais au-delà de ça, il y a la question un peu que posait Heidi, est-ce que ça donnerait lieu à des politiques publiques différentes, intrinsèquement différentes, parce qu'on amène des personnes qui n'ont jamais été là. Est-ce que le fait de les mettre à la table, ça produit des politiques publiques différentes? Je pense que oui. Mais il y a une question aussi d'efficacité. Et si on laisse ces personnes-là, par exemple, dans un contexte de crise sanitaire, se contaminer ou mourir, ça a des effets au-delà de la question évidente morale qui devrait être suffisante en soi, mais ça a des répercussions sur toute la société. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup choquée. Alors, ce n'est pas qu'au Brésil. Hein, on a fait des entretiens en Colombie, on a commencé au Royaume-Uni. Les travaux d'Elena et de Michel en France sont très... très illustratif aussi à ce niveau-là, c'est le manque d'inquiétude, de care des employeurs avec leurs employés à ce moment-là, à un moment de crise. Moi, c'est quelque chose qui me choque beaucoup. Et je ne sais plus qui tout à l'heure posait la question des employeurs. Est-ce que les employeurs peuvent être des alliés? Ils devraient, évidemment, parce que ça les impacte aussi directement. Si on laisse rentrer chez soi une personne qui a passé une heure et demie dans les transports, bondée, sans masque, etc., c'est un risque aussi pour l'employeur. Et donc, le manque d'inquiétude des employeurs par rapport à la situation de leurs employés, moi, c'est une des choses qui m'a le plus choquée. Et on a vu des cas qui ont été très débattus dans la presse, mais c'est dans tous les pays. Il y a un moment donné, cette personne-là, elle n'existe pas. On la paye pour qu'elle vienne chez nous faire du ménage ou s'occuper de nos parents ou faire notre vaisselle, etc. Mais on s'en fiche complètement de ces conditions de travail. Et bon, ça, je trouve, c'est peut-être, pour un peu la question d'Aileen et ce que disait Sabah, peut-être que c'est là que nous, comme consortium, comme force transnationale de chercheurs et d'activistes, là, on peut faire quelque chose à ce niveau-là. Donc, il y a évidemment les politiques publiques, mais une fois qu'on a des bonnes politiques, comment on fait pour les mettre en place? Et dans le secteur du care, c'est les employeurs, parce que l'État ne va pas aller, on le sait, l'État n'ira pas contrôler. Et Aileen parlait tout à l'heure, à la pause, elle me parlait d'un matériel de formation qu'elle est en train de développer pour sensibiliser les employeurs. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être réfléchir collectivement. Je pense que si on peut agir sur les employeurs, je pense que ce serait quelque chose à faire.
Je suis totalement d'accord avec Louisa et Ali autour de cet effort de sensibiliser les employeurs dans le cas du Brésil. Un des financements qu'on a eu est conditionné à le faire. Ça veut dire qu'on a des buts à propos de ça. Et je pense que si on ne réussit pas à faire aucun compromis, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher du tout. On va résister, on va déclarer, on va faire, mais ça n'aura pas de conséquences. Au même temps, ça s'est lié à ce que Georges disait, non? Qu'est-ce que la société en pense, non? On a vu le premier discours de Lula, il a dit « Eu vou cuidar do meu povo. Je veux prendre soin de mon peuple. » Et le mot était « cuidado ». Et le mot « cuidado », il a été utilisé d'une façon insistante pendant ses discours dans la période électorale. C'est intéressant. Moi-même, j'essayais de faire un bilan de comment les mots « cuidado » apparaissait dans la presse brésilienne de 1895, quand on a le premier numéro du Estado de São Paulo, jusqu'à 2019. Et c'est très intéressant, le mot, au début, je pensais au mot « cuidadores », parce que c'était un mot totalement nouveau. Et je dis, « cuidadores », c'est un nouveau mot, mais « cuidado ». Et c'est très intéressant parce que ça bouge. Non? Ça bouge. Et je pense que c'est une source. Non? C'est la façon par laquelle la société parle. Non? Et je pense que la média, comment vont les choses, ce sont d'autres sources intéressantes. C'est un défi pour nous aussi. Il y a une troisième question qu'on a sur la table aussi qui vient de l'intervention de Heidi, qui c'est très intéressant. Elle dit, on s'organise par pays, mais on a un projet qui pense faire transcender, on dit, la transcendance des réalités en faisant la comparaison. Non? Comment on fait ce mouvement-là? Non? Et ici, ça s'est mis un autre pas, par Amparo, non? Et si j'ai bien compris. De toute façon, je voudrais dire deux choses. Au Brésil aussi, il n'existe pas un secteur de cuidado comme forme de classement de l'activité économique, mais on parle de l'économie du care, hein, de l'économie du cuidado. Hein. Et ce qu'on a fait avec l'idée de l'ALO, c'est dire, bon, les soi-disant secteurs de services personnels, non, si on regarde bien de près les secteurs de services personnels, il est du care. La plupart de ces services sont des services du care. Pourquoi on l'appelle service à la personne? On ne dit pas service du care. Est-ce qu'on doit dire service du care? Toutes les occupations qui sont comme service à la personne doivent être service du care. Est-ce possible que... Quasi espagnol. Hein? Peut-être que non. Hein? C'est une question intéressante, mais je ne suis pas sûre si le but, c'est de convaincre les gens à reclasser ou dire qu'il y a une activité qui coupe d'une façon transversale d'autres activités qu'on, auparavant, on ne pensait pas qu'elles pouvaient être liées. Non? On a pensé ça à propos du marché du travail. Mais on peut penser ça à propos du marché de biens, de consommation. Et Georges Félix et Guita pensent ça à propos de la circulation monétaire, de prêts dans les banques, etc., 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 non? Des dettes. Non? On a différentes portes d'entrée. On n'a pas ouvert ces portes-là dans la formulation de notre projet, mais j'ai l'impression qu'on est devant ces défis aussi. Enfin, c'est ça. Merci pour tes observations, Amparo.
Je peux conclure, sauf s'il y a quelqu'un qui veut parler encore avant.
Moi, j'aimerais bien faire un commentaire.
Attends.
Non, parce que pendant que les gens parlaient, je me suis dit, on est en train de... essayer de penser qu'est-ce que c'est le CARE, qu'est-ce que c'est le CARE. Je me suis dit qu'autant qu'équipe, on doit se rappeler que le CARE, c'est aussi une perspective, c'est une façon de faire une recherche. Ce n'est pas qu'une définition de quelque chose là, qu'est-ce que c'est le CARE, c'est comment on va sur le terrain. Et il existe, les gens ont déjà réfléchi sur ça, en paro, elle a... montre une demande qui, la littérature française, elle a répondu dans le sens que la question qu'on pose sur le terrain, c'est qui s'occupe de quoi et comment. Et en train de répondre ces questions, on répond, on fait une description. Et la perspective du CARE, c'est ça, c'est décrire quelque chose qui était invisible avant et qui, autant que chercheur, on met en avant, on entend raconter qui sont ces gens, comment ils font, et voilà. Et je pense qu'on était en train de parler du CARE autant qu'il y ait mots synonymes et tout, mais il faut aussi rappeler que c'est une perspective, et pas, les gens choisissent en plus une perspective à place des théories, exactement, parce qu'elle est flexible, et elle est en train de, voilà, d'échanger et être en construction, et du coup, j'avais envie de... voilà.
On peut passer la parole directement pour la conclusion à Nadia ou quelqu'un veut parler encore? Non? Heidi? Non?
Ok. Alors, tu peux conclure?
Bon. 10 minutes. Non, je crois que je vais utiliser 1 minute. Non, je pense comme tout le monde, nous sommes très fatigués, en même temps très contents, non? Ça a été vraiment gratifiant, la possibilité de se réunir en présence, de se connaître en personne et d'échanger des idées face à face. Et je suis absolument sûre que ça change beaucoup les choses. En plus, le travail de l'équipe de France nous a permis de faire cet événement ouvert. Ça veut dire d'une certaine façon à faire circuler pour une audience qui va beaucoup plus au-delà de notre petit groupe de recherche, même si on s'enracine, on s'organise, on fait les networks, on est toujours très peu vis-à-vis de l'audience qu'on envisage, hein, faire connaître ce qu'on fait ici. Donc, je suis sûre que les colloques, la partie ouverte qu'on ferme aujourd'hui, et grâce au travail incroyable d'Elena, de Michel et des gens du groupe de France. Aurélie, oh mon Dieu! Elle a disparu, je l'ai effacée. Je pense que ça, c'est le principal, non? C'est de faire circuler au moment qu'on discute et on découvre les interconnexions, on circule la connaissance, non? Je pense que ça, c'est un défi et c'est un plaisir en même temps. Bon, c'est tout ce que je pouvais, que mes neurones survivantes me permettent de dire à ce moment. Merci, merci, merci.
J'ai déjà remercié ce matin toutes les personnes qui nous ont aidés dans l'organisation, mais je réitère les remerciements à quelques personnes qui sont encore là avec nous en train d'organiser. C'est Thomas Guiffard Colombo, Jean-René Borrelli et Malek Boya qui est là. Qui attend les casques de nous et tous les Esther et toutes les personnes qui nous ont aidés dans l'organisation de la journée. Et les interprètes, évidemment. Merci beaucoup. Oui, il y a pour les personnes qui vont demain pour la réunion de clôture fermée au CNAM, comme il y a eu des changements d'entrée, de porte d'entrée, il y a Aurélie qui nous a fait des photocopies, des copies du map avec lesquelles on peut se retrouver demain et arriver à l'heure quand même, parce que sinon on risque de poireauter et arriver très tard. Et c'est plus facile si on a... Donc, il faut prendre les
emails aussi.
Il y a dans les emails qui a été...
Chacun de vous qui seront demain, dans votre email, il y a le même document.
Mais vous pouvez prendre les documents avec Aurélie qui a fait plusieurs exemplaires. Merci beaucoup. Merci aux interprètes. Merci à tout le monde qui était là jusqu'au bout. Et à demain, à bientôt. Merci. Moi, je veux bien.
Merci. Ah, Aurélie, pardon, que j'ai oublié.
Merci, merci, merci. C'était bien. Merci beaucoup.
It was very good. Your presentation.